Question. Le Stade Rennais s'est séparé de son président. Habituellement, ce sont les entraîneurs qui valsent. Et là, c'est le président Olivier Létang qui a été démis de ses fonctions. Première question. Rennes, donc, se saborde-t-il? L'arrivée de Claude Puel à Saint-Etienne devait presque tout régler, mais les problèmes des Verts restent les mêmes et la peur s'installe depuis la défaite pathétique face à Marseille. 15e du championnat, Saint-Etienne doit-il avoir peur de la Ligue 2? Beau deuxième du championnat, Marseille est déficitaire de 80 millions d'euros. Nous essaierons de savoir comment est-ce possible et comment est-ce viable. Et puis le quatrième mousquetaire de nos thèmes sera consacré à PSG-Lyon. L'affiche fait-elle toujours rêver? Est-ce que Lyon peut tout perdre en une semaine, coupe et championnat, avec pour adversaire l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain? Nous sommes ce soir avec Cindy Colmenares. Bonsoir.
Bonsoir.
Baptiste Després du Figaro. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Denis.
Et puis Florian Gazan. Bonsoir Florian.
Bonsoir Denis.
Raymond Abou. Bonsoir Raymond.
Bonsoir à tous.
Comment
ravi.
Allez-vous tous?
Je suis ravi.
Cindy, vous allez bien?
Super.
Baptiste
Després
du Figaro,
en pleine forme. Très bien.
Et Florian Gazan, toujours aussi fou du championnat de France.
Ah, j'ai adoré cette première mi-temps là, ce Marseille-Toulouse. Franchement, ça m'aurait vraiment embêté de le rater.
18h31. On revient tout de suite dans quelques instants sur RTL. À tout de suite.
RTL D.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avant de parler du Stade Rennais, nous allons faire un détour bien sûr par Marseille. Marseille-Toulouse actuellement, Hugo Hamelin avec une très bonne équipe de Toulouse.
Voilà, on peut le dire comme ça effectivement Denis. 0-0 à la mi-temps, la défense toulousaine, le bus toulousain tient le choc face aux Marseillais. Il y a quand même 70% de possession pour les Olympiens, mais ils jouent bien le contre, ces Toulousains, et notamment avec une grosse alerte dès la 20e seconde hein, avec un poteau de Leia Iseka qui avait réussi à éliminer Steve Mandanda. Ils ont été tout près d'ouvrir le score à plusieurs reprises au cours du premier quart d'heure, les Toulousains. Ça s'est équilibré ensuite entre Marseille et Toulouse, et pour l'instant la décision n'est pas faite.
Mais évidemment, nous serons avec vous tout au long de cette soirée jusqu'à la fin de cette rencontre. Je vous rappelle qu'en Ligue 2, Guingamp a battu Lorient sur le score de 2-1 cet après-midi, mais Lorient reste évidemment leader de cette Ligue 2. La première question de ce refait le match, Rennes se saborde-t-il? Olivier Létang a été démis de ses fonctions, c'est le président, l'actionnaire n'en voulait plus, ça a été décidé au mois de décembre mais officialisé hier. Coup de tonnerre donc à Rennes qui doit affronter Belfort en quart de finale de la Coupe de France le 11 février. Rennes-Brest ce soir, un derby à haut risque. Julien Stéphan a été soutenu par l'actionnaire plutôt que le président. C'est assez rare pour être signalé. Un président qui n'a pas toujours été très clean dans le sens où il a été plutôt jaloux de son entraîneur quelquefois, de ses résultats. Il y a eu de la friture longtemps sur la ligne, ils se sont rabibochés. Enfin, c'était apparemment de façade. Florian Gazan, votre sentiment?
Tout ça est un petit peu quand même nébuleux. On n'a pas vraiment encore toutes les explications. On se dit juste quand même que si la famille Pinot a décidé d'appuyer sur le bouton maintenant, tout de suite, alors qu'ils auraient pu attendre la fin de la saison puisque tout va bien, c'est qu'il y avait quand même des choses... Un peu embêtant.
Pour avoir eu quelques infos ce matin, c'était un peu lui ou moi, Julien Stéphan et Olivier Létang, guerre ouverte.
Dans ces cas-là, on garde la personne qui fait bien tourner l'équipe. Rennes est troisième. Alors peut-être, moi je me disais, comme Rennes ils sont déstabilisés d'aller si bien, ils ont quand même l'habitude de finir entre la 7e et la 10e place. Je me dis, il faut peut-être qu'ils mettent un petit peu de piquant pour redescendre un petit peu. Je vois pas d'autre explication à ça. Mais pour le coup, je pense que ça aura pas vraiment d'impact. L'équipe elle tourne. Julien Stéphan, il a l'adhésion de tous ses joueurs. Bon, franchement, je vois pas en quoi ça peut gêner fondamentalement Rennes, mais bon, voilà, on rigole pas avec les Pinots.
On a critiqué pas mal l'ego d'Olivier Létang, hein, qui, dans ses passages à Reims ou à Paris, n'a pas laissé que des bons souvenirs. Cindy Colmenares, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette renvoi, finalement,
par
la remercier, comme on dit.
Oui, remercier. Oui, Cindy Colmenares.
Non, moi, je pense clairement il y a quelque chose d'extra sportif, parce que, notamment, les bilans des Rennes est quand même très bon, que ce soit en Ligue 1, mais également, ils sont arrivés en Coupe de France, à gagner la Coupe de France, mais également en Europe. Donc, il y a quelque chose d'autre. Et c'est vrai que l'entraîneur Julien Stéphan est très, très bon, fait des très bons résultats. Donc, s'il y a, en tout cas, une décision à prendre entre les deux, c'est tout à fait compréhensible qu'il puisse y avoir une décision plutôt sportive. Donc, je n'étais pas surpris. Par contre, j'étais un peu plus surprise de la réaction des Nian sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez pu les voir, mais sur Twitter, il a dit... que personne n'oublie tout ce qui a été fait pour les clubs, je cite, qui a conçu l'équipe actuelle et tout ce qui fait que c'est d'abord un club respecté en Europe, dont moi. Moi, je pense qu'il y a effectivement aussi une ambiance qui peut être pesante donc, actuellement par rapport à ce qui s'est passé, au fait que Létang ait été remercié. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi ces joueurs qui étaient effectivement après sur l'entraînement n'ont pas au tout début souhaité s'entraîner, que c'est Létang lui-même qui les aurait convaincus de les faire. Donc, l'ambiance est pesante. intéressante, mais je ne pense pas qu'elle porte un préjudice parce que l'équipe se porte bien, c'est l'important, l'entraîneur est bon et ils vont réussir à rebondir.
Olivier Létang qui avait fait venir Clément Grenier avec un salaire quand même assez dithyrambique, Doumbia des Grasshoppers Zurich pour 3 millions qui n'a jamais joué, qui a été prêté à Angers, donc il y a évidemment quelques casseroles comme un petit peu dans tous les clubs, c'est normal, mais c'est vrai que le problème d'ego d'Olivier Létang par rapport à Julien Stéphan, que
c'est difficilement gérable,
voilà,
dans
que la presse
club,
voulait mettre un petit peu en avant à raison du fait de ses résultats très probants. On va dire que Rennes est quatrième avec 40 points, égalité de points avec Lille, qui est donc troisième avec un goal average meilleur. On peut dire que Rennes réussit sa saison. Baptiste Després du Figaro.
Mais c'est ça qui est surprenant, en fait, c'est le timing, parce que quand vous regardez depuis deux saisons, depuis qu'il est arrivé, au niveau historique, il n'y a rien de mieux au niveau de l'histoire de Rennes, sous Olivier Létang. Alors après, il y a des gros soucis avec Stéphane, vous l'aviez dit, mais moi, les échos que j'ai eus tout à l'heure de Rennes, de certaines personnes qui connaissent bien le club, disaient que son autorité grandissante, au-delà du cas Stéphane, donc à Olivier Létang, agaçait profondément les Pinot, parce qu'il se considérait comme le patron du club. Pas seulement comme le président, car il l'était, mais bien au-delà de ça. Donc ça comporte les transferts, ça comporte d'autres choses, la gestion au quotidien. Et il y avait un côté interventionniste qui déplaisait fortement à Julien Stéphan. Alors après, vous avez un choix à faire. Soit vous vivez à votre entraîneur, vous l'avez dit en préambule, soit c'est le président. Et là, forcément, à cette période de l'année, vous vivez à le président parce que vous préparez la saison prochaine. Donc ils vont mettre quelqu'un dans quelques jours ou quelques semaines. Mais je trouve que se saborder, on va le voir dans quelques jours, mais je pense pas que ça a un impact considérable auprès
et
des joueurs.
Et c'est bien d'anticiper, parce qu'en fait, on est habitué finalement à quel on s'est dit, c'est quand ça va mal qu'il faut vider des gens. Moi, je pense que quand ça va bien, et c'est aussi les moments, et d'ailleurs les meilleurs moments, pour mettre en place des changements si on est ambitieux. Donc je pense que le timing est bon.
Alors ça a été acté depuis hier, mais c'était décidé depuis le mois de décembre. La famille Pinot a un petit peu autre chose à faire aussi que s'occuper uniquement du
stade rennais. Il y avait un mercato à finir aussi quand même au mois de janvier.
Exactement. Alors, Raymond Abou, est-ce que Rennes se saborde en faisant ça?
Pour répondre à votre question, les camarades ont tout bien résumé, les saisons rennaises, les deux saisons rennaises. Moi, pour répondre à votre question, oui, ils se sabordent. Et oui, moi, en tant que supporter, et je vois ça de l'extérieur, sans trop m'intéresser à ce qui se passe, je tombe des nues et je comprends pas. Je comprends pas cette stratégie. Ils sont trois. Il y a Létang, il y a Stéphane et il y a Pinot. Ils sont trois. Moi, quand je vais voir une pièce de théâtre, ça m'est égal de savoir si les acteurs de la pièce sont engueulés avant. Ce que je veux, c'est le résultat. Le résultat rennais, est-ce qu'il est là? Quatrième, tu l'as dit, ils ont un match en retard. Ils vont peut-être être troisième ce soir. On l'a parlé, l'Europa League, ils ont battu Arsenal, la Coupe de France. Rennes, ça fait 15 ans ou 10 ans quand on parle de Rennes, on dit c'est pas normal, ils sont pétés de thunes, ils sont blindés, il y a Pinot, une grosse fortune, et ils foutent rien sur le terrain. Et cette année, et l'année d'avant, et notamment cette année, on a la grosse fortune qui est là, qui a mis de l'argent, qui a payé un directeur sportif, qui a fait venir un entraîneur pour virer la mouchie et faire venir Stéphane. Tout fonctionne bien, mais m'explique...
Faire venir sans le faire venir, parce qu'il était déjà...
Oui, il était déjà ici, il avait des bons résultats avec les jeunes.
Il devait aller à Monaco.
Il l'a mis, mais c'était un pari, il aurait pu se planter.
Tout à fait.
Stéphane, personne ne le connaissait.
Olivier Létang, à un moment donné, il voulait le virer.
Oui, d'accord, à un moment donné, on a tous à un moment donné envie de virer des gens. Qui aurait dit que Rennes allait gagner la Coupe de France? Ils ont gagné la Coupe de France, tout va bien, tout fonctionne bien, et là on est dans des guerres. Ça va pas parce que en interne, dans le club, Létang il est méchant, Jacqueline elle se plaint de lui, Bernard il se plaint de lui, Guy il est pas content parce qu'on a pas fait la galette des rois, et lui il est pas content parce qu'il a dit ça,
très important,
et
ouais.
Lui il est pas content parce
aussi,
qu'il...
Hein.
Non mais je rêve, alors que si tu demandes aux supporters rennais qu'est-ce qu'il faut faire, virer Létang ou virer Stéphane, ils vont te dire virer Stéphane.
Moi dans mon
virer Létang et garder Stéphane. Merci de me reprendre. Si tu demandes aux supporters, ils vont te dire il fallait virer Létang et garder Stéphane. Mais si tu me demandes à moi, dans mon monde de oui, j'aurais préféré garder les deux jusqu'au mois de juin, qualifier pour la Ligue des Champions et après recruter intelligemment. Voilà.
Je sais que t'as un grand chef d'entreprise, auto-entrepreneur, mais je pense quand même que François Pinault, son fils et même le petit-fils connaissent à peu près bien la façon de gérer une entreprise.
Et s'ils
ont appuyé sur le bouton maintenant, tu peux être sûr qu'il y a une ou plusieurs bonnes raisons. Sinon, ils auraient attendu la fin de la saison.
J'ose espérer, comme tu dis, que les Pinot, ils savent ce qu'ils font. C'est des chefs d'entreprise bien mieux que moi qui, j'ai rien géré du tout dans ma vie. Eux, ils ont géré des choses. J'ose espérer que les Rennais, les joueurs Rennais, se disent c'est miraculeux. On est à l'aube d'une troisième place par rapport à l'effectif qu'on a, par rapport à qui on est, nous. nous, joueurs rennais, avec tout le respect que je leur dois, j'espère qu'ils vont se défoncer pour garder cette troisième place et que ça n'aura aucun impact. Parce que des chances de se qualifier en Ligue des Champions, pour le groupe rennais, ça ne va pas se présenter tous les jours.
Bon, moi,
l'effectif,
pas,
il est bon, mais ce n'est pas un effectif qui, au début de saison, se dit je vais être devant Lyon, devant Marseille, devant Monaco.
Non, au début de saison, mais maintenant
j'espère que ça n'aura pas d'impact parce que dans leur tête, ils vont se dire nous, on a cette troisième place à aller jouer, on s'en fout de ce qui s'est passé, qu'ils ont viré les temps. Parce que si le club rennais s'effondre là, on ne saura jamais.
Mais en fait,
si les temps étaient restés, on ne saura jamais.
Dans l'idéal,
si ça se trouve, les Rennais vont finir 7 ou 8e.
Dans l'idéal, mais quand on s'est dit que Niang dit ça et Traoré dit ça, c'est quand même des joueurs des Rennes. Donc moi, je ne pense pas que ça ira plus loin. Je pense qu'ils vont réussir à apaiser tout ça. Mais est-ce que tu aurais laissé cette situation aussi s'empiler, s'entériner, alors que tu avais l'opportunité là, dans des bonnes conditions, de te séparer d'une personne qui, clairement, selon ce qu'on entend, crée des soucis à Rennes?
Ce n'est pas des bonnes conditions parce que lui, il a fait une déclaration, Létang, Olivier Létang, en disant c'est contre mon gré. C'est ça ou pas?
Tu demandes pas de
faire
bien.
C'est pas des bonnes conditions. Si Olivier Létang avait expliqué à tout le monde, les amis, c'était convenu comme ça depuis décembre, et monsieur Pinot, que je respecte, alors donc c'est pas des bonnes conditions. S'il avait fait une interview en disant les amis, vous inquiétez pas, c'était prévu, je vous adore, j'adore le Stade Rennais, c'était prévu comme ça, je m'en vais, un autre prendra ma place et garder cette troisième place. C'est pas ce qu'il dit. Il dit je pars contre mon gré, je vous oublierai jamais. J'avais envie de chialer.
C'est pas des bonnes conditions
au niveau du club, au niveau des classements.
Mais après, sur ce côté-là, par rapport à Stéphane, là, lui, va clairement être observé par tout le monde parce que, entre guillemets, il a eu la tête d'Olivier Létang, il a eu la tête de son président, donc derrière, il va falloir assumer.
La tête, c'est-à-dire que lui, il a mis dans la balance, moi, si j'ai pas de résultats, c'est normal que vous me viriez, c'est Julien Stéphane qui parle, mais si j'ai des bons résultats, après, vous choisissez.
Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'enlève rien au fait aussi que Julien Stéphane, depuis deux saisons, enfin depuis qu'il est arrivé au club, fait quand même un super boulot. En lien avec les temps, mais tu peux pas continuer comme ça quand t'as un binôme et que les deux se parlent pas ou en tout cas peuvent se voir.
Florent
c'est compliqué sur le long terme.
Est-ce que c'est pas le fait que justement Julien Stéphane soit trop bon et fasse un peu d'ombre à Olivier Létang qui a mis le feu au poudre? Florian Gazan.
Non, je pense qu'effectivement Olivier Létang.
Parce qu'Olivier Létang, il aime pas trop l'ombre.
Non, voilà, mais il a un gros ego. On sait bien que quand il était au Paris Saint-Germain, il était un peu dans l'ombre aussi, notamment de Leonardo. Et je pense que c'est pas quelqu'un qui il aime bien avoir beaucoup de lumière, je pense qu'il doit s'éclairer avec son iPhone.
On aime tous le soleil.
Voilà. Et du coup, il a peut-être, il s'est peut-être pris pour celui qu'il n'était pas. Il a peut-être oublié qu'il était lui aussi l'employé du propriétaire, qui est François Pinault. Il s'est pris peut-être pour le calife à la place du calife. Et ça, ils n'ont pas aimé, les Bretons.
Alors, il y a un nom qui est arrivé dans la journée pour Arsène Wenger.
Bien sûr. On en parlait depuis un certain temps.
Qui est évidemment très apprécié de l'actionnaire, mais sincèrement, à mon bout, je ne vois pas trop Arsène Wenger débarquer président à Rennes, sait-on jamais.
Hein. Apparemment, il ne veut pas s'en aller des postes qu'il a à FIFA.
L'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille avec cette frappe sensationnelle, encore une fois, de Dimitri Payet. Il va nous la chercher. Il est à 22 mètres, ça part sous la barre transversale de Baptiste Rennais. Et ça fait 1-0 au retour des vestiaires pour l'Olympique de Marseille, 52e minute de jeu ici au Stade Vélodrome.
Quel but de Payet.
Quel mérite face à cette défense.
Magnifique.
Ah là là, il a martyrisé la défense stéphanoise il y a quelques jours seulement. Cette fois-ci, c'est une frappe de loin. Elle est magnifique, elle est parfaitement placée. Il n'y a pas de question de défense. Je pense que ça rentre dans à peu près toutes les défenses sur ce coup-là. Frappe de l'extérieur de la surface de réparation pour l'ancien capitaine de l'OM. Avec une petite passe décisive de Bounassar. Il est à 23 bons mètres là. Ça lobe carrément Baptiste René qui était avancé sur sa ligne des 5m50. Et ça fait 1-0. Enfin l'ouverture du score dans ce match pour l'OM.
Énorme but de Payet. Raymond Abou,
il devrait faire des déclarations toutes les semaines, Dimitri. Ouais, à chaque fois qu'il fait des déclarations, il joue bien.
On a quand même beau dire ce qu'on veut, mais enfin, Payet, quand il est en forme, c'est un beau joueur de foot. Raymond Abou revient à Rennes, donc Arsène Wenger.
Sur Wenger, moi, j'ai entendu qu'il voulait garder le poste qu'il avait à la FIFA, que ça l'intéressait bien. Et je pense que c'est Giovanni Castaldi hier qui a dit dans Soir de Ligue 1 que Wenger était à Londres. Que Pinot était parti à Londres pour discuter avec Wenger. Donc moi ça peut être que être bien. Moi j'adore Arsène Wenger. Je vais pas vous dire non, c'est une mauvaise idée.
Ça a la classe.
Moi quand on m'a parlé de Wenger au PSG, j'ai dit oui qu'il vienne.
Donc, il a tout réussi. Et effectivement, après il a pas d'expérience en tant que président, mais on s'est dit quand même qu'il a vu tout ce qui est partout où il est passé, il a réussi. Aujourd'hui il s'occupe à la FIFA du développement du football international. Est-ce que vraiment ça lui intéresserait?
Wenger il viendrait en manager, il viendrait pas en président.
C'est la place qui s'est libérée.
Rapidement, en tour de table, après on passera à autre chose. Donc Rennes se saborde-t-il avec cette
Non, absolument pas. Bonne décision.
Non, du tout.
C'était près du Figaro. vraiment à bout.
Ah, moi, je vous dis un grand oui.
Un grand oui. Florian Gazan.
En aucun cas, c'est les joueurs qui décident.
Alors, je vous rappelle que Rennes jouera à Belfort en Coupe de France et reçoit à Brest ce soir. On se retrouve dans quelques secondes. Nous parlerons avec Cindy Colmenares, Baptiste Després du Figaro, Raymond Abou, Florian Gazan de l'association sportive de Saint-Etienne, le plus grand club du monde. À tout de suite.
Denis Balbir sur RT.
Ensemble.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Je vous rappelle que Marseille mène devant Toulouse 1-0 grâce à un but stratosphérique de Dimitri Payet. Nous avons parlé de Rennes, nous allons parler de Marseille, nous allons parler de Paris Saint-Germain à Lyon, mais aussi de Claude Pelé de l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne 15e du championnat. Saint-Etienne pathétique contre Marseille l'autre jour. Saint-Etienne doit-il avoir peur de la Ligue de Florian Gazan?
Non, je pense pas quand même. J'irai pas jusque-là. J'essaie de vous rassurer, hein, Denis. C'est pas pour vous, mais c'est très objectif ce que je dis. Non, ils ont quand même heureusement un paquet de joueurs et de bons joueurs, un effectif. Il y a eu beaucoup de blessés. Ça a été un petit peu compliqué.
Il y en a encore à Mouma et à Casery pendant cette semaine.
Ils ont ouvert un hôpital, Saint-Etienne, équipe. Là. Donc non, je pense que ça va revenir. Après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Claude Puel est arrivé en plein milieu de saison, une saison qui a commencé hyper mal. Et vous savez, un club quand ça se met mal en début de championnat, c'est très compliqué de redresser la barre. Ils ont pas vraiment de réussite.
Pourtant, son bilan était bon à son arrivée. Il y a eu le derby, le fameux derby.
Bah, après, c'est retombé parce que je pense que il fait un travail de fond, Claude Puel, qui, à mon avis, va payer dans les prochaines années. Mais là, au quotidien, c'est un peu difficile. Mais je pense pas qu'ils vont descendre. Il y a quand même des équipes beaucoup plus mauvaises qu'eux.
Avec Raymond Abou, des cadres qui répondent pas forcément présents. On voit Stéphane Ruffier qui est assez faible. Mvilla qui perd des ballons. Il a eu deux tours de rein face à Payet lors de la dernière journée. C'est compliqué.
Moi, j'y croyais beaucoup. Quand Claude Puel est arrivé, il gagne contre Lyon tout de suite. Il gagne tout de suite. J'ai dit, ça y est, là. Et après, ils enchaînent une série de 3 matchs, je crois, sans perdre. Je dis, ça y est, c'est parti. Claude Puel, il a réussi à instaurer ce truc que Printemps n'avait pas réussi, parce que Claude Puel, c'est plus d'aura, plus d'expérience, plus de passé, plus de vécu. Le discours, il passe. Puis ils se sont effondrés. Mais quand tu prends la composition de Saint-Etienne et l'effectif de Saint-Etienne, avec le talent qu'il y a, tu te dis, c'est pas, ils sont à 7 points là, du premier relégable.
Le talent qu'il y a, il y a pas six, ouais. Plus enflammé. Quand t'as Diony devant qui a pas mis un but depuis 3 ans.
Il n'y a pas que lui. C'est pas que lui. À chaque fois, les gens, c'est vrai, tout le monde tape sur lui à chaque fois.
Un attaquant qui marque pas de but, c'est pas
lui tout seul.
Le dernier bon attaquant de Saint-Etienne, c'est quoi? C'était Johnny Rep? Non, je plaisante.
Mais non, mais il y a 7 points.
Bah,
il y a
7 points. Mais ils ont plus de buteur.
Il y a 7 points. Il reste 15 matchs. Ça n'avance pas.
On va rappeler, Saint-Etienne jouera jeudi soir à Nancy contre Épinal en Coupe de France et puis Montpellier dimanche en championnat. C'est Nicole Ménard.
Non, mais quand tu parles de Claude Puel, Raymond, tu dis que bon, qu'il fallait qu'on s'est emballé, etc. Justement, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans la communication de Claude Puel, c'est qu'il a dit, attention, ça fait 9 matchs qu'on est invaincu, qu'on gagne, mais il ne faut pas s'emballer parce que j'ai un effectif, qu'il faut aussi faire des changements, etc. Donc il va déjà prévenu. Et c'est vrai que quand on voit face à Marseille, il faut aussi rappeler que Marseille est sur une superbe série sportive. En Ligue 1, on ne s'attendait pas forcément à que Marseille s'effondre. Et quelque chose qui m'a beaucoup choqué pendant ces matchs, c'est que Saint-Etienne s'est retrouvé finalement à faire des passes longues. C'est quelque chose que j'avais pas du tout ou plus trop l'habitude de voir, en tout cas en Amérique du Sud, si tu fais des passes longues comme ça pour essayer de relancer, et honnêtement, tout est fait siffler. Donc c'était vraiment une des seules options qui leur restait. Et quand on voit les nombres des personnes blessées, des joueurs blessés qu'il y a actuellement, ils sont à 5 maintenant, on s'est dit que physiquement, il y a quelque chose aussi qui se passe, c'est que l'effectif n'arrive pas non plus à tenir la route, et c'est, pour moi, c'est le problème, il se situe là. Parce que si vous voulez, l'ambition de Claude Puel, pour moi, elle est légitime, elle est bonne et il les met vraiment sur les bons schémas.
Mais moi, ce qui m'a inquiété à la mi-temps, surtout de Saint-Etienne-Marseille, c'est de voir les visages des Stéphanois, très fébriles, fragilisés, perturbés. Il n'y a pas de révolte quand je vois Toulouse jouer ce soir contre Marseille.
Ils jouent le match de leur vie.
Mais justement, quand on reçoit Marseille et qu'on est Saint-Etienne, on doit aussi jouer le match de sa vie. Baptiste Després, le Figaro.
Vous évoquez les visages des joueurs de Saint-Etienne, mais le problème, c'est quand tu es dans le dur, quand tu perds de la confiance comme ça pendant X matchs, c'est difficile après de se remettre en selle. Mais le souci de Saint-Etienne, je suis d'accord avec Raymond, ils ont rien à faire à une place comme ça. Alors après, sur le papier, ils ont quand même un effectif qui est conséquent, mais derrière, il y a quand même des cadres, et c'est le problème aussi avec Claude Puel. Enfin, le problème. En tout cas, il s'est attelé à...
Ça peut être le problème.
Exactement. Sur le côté remise en cause des cadres. Aujourd'hui, les Ruffier, vous en parlez tout à l'heure, mais même les Mvilla, les Boudbouze ou d'autres, on sent qu'il est en train de faire le ménage pour la saison prochaine. Donc là, on est parti sur 3-4 mois de transition. Ouais. Alors après, il fait pas mal d'interviews en disant, dans 5 ans, on vise la Ligue des Champions, il est venu pour un projet, il est manager, il est au conseil d'administration. Bref, il avait plein pouvoir à Saint-Etienne. Donc il a les mains libres. Et derrière, il va justement aller chercher des jeunes. Il va aller chercher des profils un peu différents. Il a fait une interview à France Foot qui était plutôt pas mal sur les profils de joueurs qu'il voulait. Il disait que au niveau physique en France, c'était compliqué. Il faut juste lui laisser du temps.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord justement, Raymond Abou, est-ce que vous trouvez qu'on est trop clément parce que c'est Claude Puel?
Non, on n'est pas trop clément. Il faut Claude Puel, il faut qu'il travaille. Il arrive en cours de saison. Il faut qu'il fasse un début de saison. Moi, j'en veux plus aux joueurs parce que je remets encore l'effectif. Est-ce que vous pensez que Brest, Angers, Reims, est-ce que vous pensez que c'est plus faible en effectif? Strasbourg, est-ce que vous pensez qu'ils ont un effectif plus fort que Saint-Etienne? Moi, je vous dis que non. Je vous dis que il y a certains frimeurs à Saint-Etienne qui jouent pas le jeu correctement. Il y a des mecs qui se prennent pour d'autres. Quand on dit tu te prends pour quelqu'un d'autre, à Saint-Etienne, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui se prennent pour quelqu'un d'autre. Quand vous avez dit les visages contre Marseille, bon, c'était l'OM tourne bien.
Mais quand je prends les effectifs des autres
et quand on me dit ouais, mais à Saint-Etienne, il y a des blessés. Mais il y a des blessés à Reims, il y a des blessés à Angers, il y a des blessés à Nice, à Strasbourg, à Rennes, il y a des blessés partout. Moi aussi, parfois, je suis blessé.
Mais est-ce que Claude Puel est adapté à l'effectif qu'il a actuellement, qui est un effectif comme.
Mais non, lui, ce qu'il veut, c'est refaire tout l'effectif au mercato d'été. Pour ça, il faut se maintenir.
Parce que l'année dernière, finalement, ils avaient à peu près la même équipe avec Jean-Louis Gasset, qui est un type d'entraîneur complètement différent, même si c'est également un formateur, mais voilà, c'est quelqu'un qui va aller faire un peu de la calinothérapie et vous remettre dans le bon sens, et ça a marché. Là, on sent qu'avec Claude Puel, c'est un peu plus.
Il est un peu plus straight.
T'as l'impression que vraiment, pour qu'il se marre, il faut le brûler, quoi.
Ce qui est faux, d'ailleurs.
C'est l'impression qu'il dégage sur le banc, quoi.
Il y a eu une transition. Gasset, il a eu des résultats, parce que moi, j'en reste persuadé au discours. J'en reste persuadé quand un entraîneur rentre dans un vestiaire et te raconte des anecdotes avec Ibrahimovic, Cavani, Thiago Silva, en parlant de Gasset, qui a bossé avec Laurent Blanc. Je reste persuadé que le discours, il peut passer. Je reste persuadé que quand il met des séances d'entraînement en place en disant on faisait ça avec Mbappé ou je sais pas qui, je reste persuadé que ça peut fonctionner. Après, printemps, il arrive, ça n'a pas fonctionné. Et je dis, quand Puel, il arrive, il y a cette fraîcheur de refaire le discours. Et maintenant, je pense que. Je me répète, je pense qu'à Saint-Etienne, le problème, c'est que c'est des joueurs qui se la racontent un peu, comme on dit. Je pense qu'ils se voient trop beaux.
C'est pour ça aussi que Claude Puel fait beaucoup appel aux jeunes.
Mais c'est ça, et puis c'est, les jeunes, c'est pourquoi? C'est pour piquer dans l'orgueil, justement, des vieux. Et puis derrière, quand il est arrivé, ça tranche complètement son management. Vous évoquiez tout à l'heure printemps, vous évoquiez Gasset, qui était plus dans le côté où on met tout le monde dans un certain confort. On les pique pas. Vous rappelez-vous Mvilla qui dit moi si.
Je vais aller plus loin, Baptiste, printemps. Parce que printemps, quand il disait bonjour aux joueurs, c'était salut fraté. Hein, c'était
pas. Bien sûr.
Donc là, c'était l'assistant.
C'est sûr que Claude Puel.
Claude Puel arrive encore une fois avec les pleins pouvoirs. Derrière lui, il est pas là pour faire copain. Il est là pour se projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans, de faire de Saint-Etienne justement un grand club français. Vous l'évoquiez tout à l'heure. On en a comme encore un petit peu loin par rapport aux années précédentes, aux années fastes, mais il est venu comme ça avec les pleins pouvoirs, donc derrière il fera pas de sentiments.
Il faut quand même faire gaffe, il faut quand même gérer le quotidien, c'est-à-dire que c'est bien beau de se projeter à 2 ou 3 ans, mais si l'année prochaine tu veux faire un grand club mais que t'es en Ligue 2, ça sera un peu plus.
Alors je vais rappeler 15e du championnat.
Moi quand je vois Ruffier, c'est un symbole. Ruffier, il était complètement à la rue contre Marseille, c'est-à-dire il prend des buts, le Ruffier qu'on connaît il les prend pas. Sur Payet, il se fait quand même si Payet fait une super frappe, il gère pas son premier poteau, il doit pas prendre ce but.
Et donc, le deuxième non plus.
Voilà, donc Ruffier, tu te dis, le mec il a plongé. Et un mec comme Ruffier, s'il se met à plonger, c'est quand même inquiétant.
Alors on va rappeler que Saint-Etienne, 15e, 28 points, 5 points du 6e d'un autre côté, et à 8 points devant le 19e. Alors, 15e place, est-ce que Saint-Etienne doit avoir peur de la Ligue 2 pour vous, Baptiste Després du Figaro?
Non, j'y crois pas une seconde.
Pas une seconde, Cindy Colmenares.
Non, j'y crois pas, et parce que justement, les problèmes des vestiaires que vous avez évoqués, moi je pense qu'au contraire, Puel a réussi à se mettre dans la poche certains cadres du vestiaire. Parce que
Debuchy-Cabaye notamment qu'il avait lancé.
J'ai eu quelques échos. Et pourquoi? Simplement parce qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'il y avait d'autres joueurs qui n'étaient pas forcément sérieux, qui n'étaient pas en train de donner tout pour les clubs. Donc je pense qu'au contraire, je vois plutôt quelque chose de positif pour Saint-Etienne.
Raymond Abou.
Moi, je crois en Saint-Etienne parce que je ne crois pas à Toulouse, je ne crois pas à Amiens, je ne crois pas à Nîmes, je ne crois pas à Dijon. C'est pour ça que je crois en Saint-Etienne.
C'est pas très encourageant.
Je vais même être moins sympa, je vais même Metz, je vais le mettre dans le lot pour la peine. FC Metz, tiens, j'y crois pas non plus.
Moi, je suis un peu inquiet parce que c'est souvent quand on dit ça n'arrivera pas que ça finit par arriver. Donc méfiance.
D'accord. On va aller avant de terminer sur Saint-Etienne un petit tour quand même par Marseille, Toulouse, Hugo Hamelin, toujours 1-0 pour les Marseillais.
On joue la 64e minute, toujours 1-0. Effectivement, but inscrit par Dimitri Payet à la 51e. Alors, je croyais que vous alliez me demander si Toulouse tentait de réagir. La réponse, c'est absolument pas. Hein. Le bus toulousain est toujours devant la surface de réparation. Ils ont beaucoup de mal et c'est au contraire Marseille qui appuie pour tenter d'inscrire un second but avec là l'action de Maxime Lopez sur le côté droit pour Dimitri Payet. Dimitri Payet qui décale Bounassar. Bounassar, le centre tendu. Un petit peu trop, c'est récupéré par le TFC. Toujours 1-0 pour l'OM face à Toulouse.
Merci Hugo Hamelin. On revient rapidement à Saint-Etienne. Florent Gazan, qu'est-ce qu'il faudrait pour que Claude Pelle trouve la potion magique pour justement sauver ses verts ? Parce qu'un effectif de qualité sur le papier, mais diminué avec des cadres qui n'ont pas forcément envie, c'est quand même très compliqué qu'on soit Claude Pelle ou X ou Y.
Bah, c'est déjà mettre les joueurs qui ont vraiment envie de se battre et de mouiller ce maillot pour garder le club en Ligue 1, donc faire un audit par rapport à cet état mental. C'est vrai qu'il joue beaucoup avec les jeunes. Bon, moi je trouve que les jeunes c'est bien. Après, quand vous êtes dans ces zones-là du classement, un peu d'expérience ne peut pas faire de mal, donc peut-être s'appuyer sur quelques grognards et essayer de, bah, surtout de remonter et les Perrin, les Mvila, les Ruffi qui sont à la rue, quoi.
Cindy Colmenares.
Non, il faut absolument que des joueurs se prennent aussi en main, parce que comme tu l'as mentionné, Mvila n'est pas la haute de ce qu'il devrait être en train de donner, et notamment contre Marseille, c'est lui qui a été impliqué dans l'un des buts. Donc pour moi, ça revient vraiment aux joueurs, et ce qui me rassure, et c'est pour ça que je dis que je ne vois pas Saint-Etienne descendre encore plus loin, c'est simplement parce qu'il y a Claude Puel qui donne vraiment des structures et qui peut apporter ça.
Baptiste Després du Figaro.
C'est ça, c'est au cadre aussi qu'ont un palmarès, qu'ont une fiche de paye conséquente, qu'ont une aura, qui doivent justement être au niveau de tout ça. On les paye aussi pour ça, et quand les clubs sont en difficulté, comme un club comme Saint-Etienne qui a une certaine pression aussi, il faut être au haut niveau, et là c'est pas le cas aujourd'hui.
Raymond Abou, c'est pas l'heure de construire, c'est l'heure de se battre.
C'est l'heure de se battre pour rester en Ligue 1. Le débat, c'est ça, c'est rester déjà en Ligue 1 et après faire confiance aux dirigeants pour que Claude Puel aussi ait son mot à dire s'il reste l'année prochaine, pour refaire tout et voilà, et refaire à neuf. Parce que là, quand vous regardez l'effectif, les Debuchy, Kaba, Yembila, Amouma, Kazri, tout ça, c'est des tauliers. Il n'y a pas besoin de leur expliquer ce qu'ils ont à faire. Comme il a dit Baptiste, ils ont quand même une fiche de paie, quand ils arrivent sur le parking avec leur bagnole, ils arrivent, c'est des tauliers, les gars. On le voit bien que c'est des tauliers.
C'est pas les deux choix.
Kaba, Yembila, tout ça, ils étaient en bleu, les mecs. Ils ont mis le maillot de l'équipe de France.
Après la publicité, nous parlerons de Marseille, déficitaire, 80 millions d'euros. PSG Lyon, est-ce que ça fait rêver? Est-ce que Lyon peut tout perdre en une semaine? Marseille en coupe, PSG en championnat. Nous sommes avec Cindy Colmenares, Baptiste Després du Figaro, Raymond Abou et Florian Gazan. A tout de suite sur RTL.
RTL.
Votre week-end sur RTL.
RTL, il est 19h. L'information, c'est Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. 140 personnes verbalisées lors de la manifestation interdite des Gilets jaunes à Paris. Parmi eux, Éric Drouet, l'une des figures du mouvement, qui affirme avoir reçu une amende alors qu'il regardait simplement le menu d'un café. Une atteinte à la liberté de manifester. Selon lui, les Gilets jaunes avaient appelé à défiler du Conseil d'État jusqu'au palais présidentiel, l'Élysée. Un parcours interdit par la préfecture. Suite à la disparition de deux jeunes originaires de l'Aude depuis décembre dernier, deux frères viennent d'être mis en examen pour homicides involontaires. La police avait retrouvé deux corps enterrés dans leur jardin. Alors les analyses ADN sont en cours, mais l'autopsie a déjà permis d'identifier les deux disparus. Ils ont été tués à l'arme à feu, probablement au fusil de chasse. 850 personnes dans les Landes pour rendre hommage à Victor, cet adolescent de 17 ans tué la semaine dernière lors d'un règlement de compte avec un autre jeune garçon apprécié, sportif, jovial. De nombreux camarades de son lycée étaient présents. Puis un autre hommage en Corse, cette fois une marche blanche en mémoire de Barthélémy Casanova. Environ 2000 personnes ont défilé dans les rues de Corté à l'appel de deux collectifs anti-mafia. Cet homme de 39 ans siégeait au conseil municipal. Il a été tué fin janvier d'une balle dans la tête dans une discothèque. Aucun suspect n'a pour l'instant été interpellé. Une démission dans un souci d'apaisement. Didier Gayagué a finalement annoncé qu'il renonce à son poste de président de la Fédération des sports de glace en plein scandale de violence sexuelle. Il a dénoncé au passage la dictature ministérielle. La ministre des sports, Roxana Maracineanu, avait réclamé la démission de Didier Gayagué lundi dernier. Il n'y a pas d'autre solution que de déconstruire pour mieux reconstruire, a réagi tout à l'heure la ministre. L'inquiétude en Haute-Savoie, alors que 5 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés. 2 écoles vont rester fermées la semaine prochaine, celle de Contamine-Montjoie et celle de Saint-Gervais. Parmi les personnes contaminées, un enfant qui a fréquenté ces deux établissements scolaires. Les élèves et leurs parents vont devoir passer des tests de dépistage. Les 5 patients contaminés ne montrent pas de signes de gravité. Ils sont hospitalisés à Lyon, Saint-Étienne et Grenoble. Les autorités françaises déconseillent les voyages en Chine, sauf raison impérative. la Chine, où l'épidémie a fait plus de 720 morts avec, pour la première fois cette semaine, un mort non chinois, un Américain de 60 ans mort dans un hôpital de Wuhan. Le coronavirus a déjà contaminé plus de 34 500 personnes en Chine. En Thaïlande, la police intervient après la tuerie dans un centre commercial. Des dizaines de clients terrifiés ont été évacués, les bras levés, ils ont dû s'identifier. Un soldat a ouvert le feu tout à l'heure, faisant au moins 17 morts. Plusieurs médias locaux évoquent une prise d'otage. En sport, le rugby dans le tournoi à destination, l'Écosse affronte l'Angleterre et pour l'instant 58 minutes de jeu, 3 partout entre les deux équipes. Tout à l'heure, l'Irlande a enchaîné un deuxième succès en battant les Gallois tenants du titre 24 à 14. La météo pour demain, attention, beaucoup de vent, des rafales de 100 à 120 km/h près des côtes de la Manche. Ce sera à 70-90 km/h dans les terres. La tempête va poursuivre sa route vers l'est jusqu'à lundi, balayant une très large moitié nord, des vents accompagnés de pluie. En revanche, dans le sud, on attend des belles éclaircies des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Les températures stables et donc encore assez douces. Demain, il fera 12 degrés à Lille et à Chambéry, 14 à Châteauroux et à Paris, 15 degrés à Nice, 16 à Marseille, 19 à Mont-de-Marsan. Il est 19h03 sur RTL. Marseille reçoit Toulouse, 1 à 0 pour Marseille toujours. On en est à 72 minutes de jeu. La suite du match à suivre dans On refait le match avec vous, Denis Balbir.
Merci Alexandre de Saint-Aignan. Nous allons effectivement parler de Marseille. Nous suivrons ce Marseille-Toulouse 1-0, but de Payet, un but exceptionnel. Beau deuxième du championnat, Marseille conforte sur la place justement de deuxième, mais aussi déficitaire dans les finances de 80 millions d'euros. Nous essaierons de savoir comment est-ce possible et viable. Nous parlerons de Paris Saint-Germain-Lyon. Est-ce que l'affiche de demain fait toujours rêver? Est-ce que Lyon peut tout perdre en une semaine? Coupe et championnat avec pour adversaire Marseille et Paris Saint-Germain. Nous sommes avec Cindy Colmenares, Baptiste Després du Figaro, Raymond Abou et Florian Gazan jusqu'à 19h30. Vous êtes sur RTL.
13h avec Vincent Niclot.
RTL, on refait le match avec Denis Balbir.
Nous sommes avec Cindy Colmenares, Baptiste Després du Figaro, Florian Gazan et Raymond Abou. Marseille est un beau deuxième du championnat en menant contre Toulouse 1-0 avec ce but superbe de Payet. L'OM est déficitaire malgré tout de 80 millions d'euros. Nous essayons de savoir comment est-ce possible et viable. Jean-Michel Aulas est monté un peu au créneau cette semaine pour s'étonner un petit peu de cet état de fait. Florian Gazan.
Ouais, bah, on sait, de toute façon, on la connaît, la situation de l'OM. Il y a un péché originel qui est que l'été dernier, ils devaient absolument vendre un joueur pour être dans les clous, puisque, en gros, ils ont le droit à 30 millions de déficit par an autorisé par l'UEFA. Ils n'ont pas vendu ce joueur, donc ils n'ont pas vendu Sanson, ils n'ont pas vendu Thauvin. Cet hiver, ils n'ont pas vendu le joueur, donc bah, 30 plus les 30 de cette année, 30 plus 30, 60. Donc voilà, donc ça se creuse et ça va devenir problématique. Problématique sportivement aussi, parce qu'on commence à avoir des déclarations. On a eu Villas-Boas qui dit, bah, moi, en gros, si on ne peut pas jouer avec des champions, ça ne sert à rien de se qualifier. En gros, ça veut dire, je me barre à la fin de la saison. Payet qui fait la même. Sanson qui dit, bah, moi, j'ai envie que l'année prochaine, on soit tous avec les copains qu'on joue à la Ligue des Champions. Sauf que ben, il faut peut-être qu'ils partent. Donc le problème, c'est que on a une situation quand même qui est extrêmement paradoxale d'un club qui va sportivement mieux que depuis 10 ans, mais qui va non pas droit au mur, mais droit dans le bus, droit au mur et pas droit au bus. Voilà.
On va rappeler qu'en France, il y a cette DNCG, hein, direction du financement, du comité de gestion, etc. Donc est-ce que Baptiste Després du Figaro, Marseille, peut craindre quelque chose?
Mais non, par rapport à la DNCG, à la limite, au pire des cas, Macron peut remettre au pot, il ne remettra pas au pot, mais par rapport à la DNCG, c'est pas la même chose, Florian l'a dit. Entre l'UEFA et la DNCG, c'est pas la même, parce que derrière l'UEFA, il faut que vous ayez moins de 30 millions, c'est ça à peu près, 30 millions de déficit. Aujourd'hui, c'est colossal. Donc Marseille sera contraint, avant le 30 juin, de vendre un joueur.
Alors après, même deux.
Ou deux, voire deux, on verra bien.
Il n'y a pas de joueur qui vaut 60 millions aujourd'hui.
Non, pas de joueur, mais si tu as.
Oui, mais après, il faut en racheter normalement, non, pour faire un bon
effectif.
Alors
après, c'est autre chose. Et c'est le souci, parce qu'aujourd'hui, les déclarations font que André Villas-Boas et Dimitri Payet, ils mettent la pression aussi sur les dirigeants. Sauf que c'est le souci, c'est paradoxal, c'est que Jacques Herrero, au-dessus de lui, on lui dit, on ne met plus au pot, il faut trouver des recettes, donc on va multiplier les sponsors, on va essayer de trouver des choses. Il faut dégager vraiment du pognon. Et là, c'est là où c'est délicat, parce que sur le terrain, ça marche, mais ça ne suffira pas.
Nicole Ménares.
Alors, je prends la passe décisive que vous nous avez envoyée parce que vous avez parlé de la DNCG et en fait, effectivement, Aulas a rappelé que l'OM s'est permis cette situation alors qu'avec la bénédiction, a-t-il dit, je le cite, de la DNCG. Effectivement, c'est l'UEFA avec du coup l'instance des contrôles financiers des clubs qui, avec qui l'OM avait établi les faits qu'il n'y aurait que 30 millions dans cet exercice et puis zéro et puis à l'équilibre en 2020-2021. Donc là, ils sont pas au niveau de ce sur quoi ils se sont engagés, je pense qu'ils ont été un peu trop optimistes.
Oh, et donc,
qu'est-ce qu'il nous reste
de
deux solutions? Soit Macour remet de l'argent encore dans les clubs, sauf que ça m'étonnerait qu'il le fasse à nouveau. Il n'est pas là venu à Marseille pour perdre. Soit, à ce moment-là, il dégraisse énormément pendant les mercato en juin. C'est que je pense qu'il y a la situation qui risque de se passer les plus probablement, en fait.
Raymond Abou.
Moi, je suis pas très technique pour ces grosses histoires de finances. Après, je me dis juste que la priorité, c'est quand même se qualifier en Ligue des Champions. Il faut pas dire ouais, ça sert à rien de se qualifier si on peut pas y aller. Il y a les droits télé aussi qui vont remettre au pot.
Ça rapporte.
Il y a peut-être des options aussi. Ah,
aujourd'hui, ils sont obligés de se qualifier.
Voilà,
financièrement.
Obligés de se qualifier et les droits télé qui vont arriver et peut-être cette option de se dire on peut se faire prêter des joueurs avec les salaires moitié-moitié, etc. On sait qu'il y a comme a fait le Paris Saint-Germain.
Il y a pas mal de combines,
On sait qu'il y a des combines. Moi, j'étais étonné aussi de voir sur le classement que tu es sorti les 30 joueurs les plus payés. Il y a le Paris Saint-Germain avec 13 ou 14 joueurs. En deuxième position, c'est l'OM. L'OM, ils ont 5 ou 6 joueurs avec des joueurs à 500 000 euros. Des Payet, des Strootman, des Thauvin, des
Payet, il met des buts. Strootman,
ouais, mais
Sertic, 185 000 euros.
Il y a aussi Sertic, 185 000. Mais bon, il y a aussi ce problème-là aussi. Il y a Marseille qui recrute mal et Marseille qui paye trop cher aussi.
Raymond a raison. C'est exactement ça. C'est un problème de masse salariale principalement. Ce sont des salaires qui sont trop élevés. Ce sont des salaires de Ligue des Champions qu'à l'Olympique de Marseille, alors qu'ils n'y sont pas, et c'est trop élevé par rapport aux bénéfices. Il y a Strootman, il y a Mitroglou, il y a Grégory Sertic, et puis il y a le cas de Balotelli qui est l'exemple le plus frappant. C'était 500 000 euros par mois plus des primes tous les 3 buts ou tous les 5 buts pour au final ne pas se qualifier pour cette Ligue des Champions. Donc ils ont investi beaucoup là-dessus. Il y a eu le licenciement Garcia, il y a le Vélodrome qui coûte des millions à l'Olympique de Marseille chaque année, avec le coût de l'exploitation, le loyer qu'ils payent à la ville, etc. Donc ils vont avoir besoin effectivement en fin de saison de 30 à 40 millions d'euros avant le 30 juin, donc ça veut dire deux joueurs minimum.
Alors Hugo Hamelin, voilà, deux joueurs minimum, mais comment après racheter? Parce qu'il va, alors, il va falloir entre guillemets combiner, c'est-à-dire se faire, comme disait Raymond, se faire prêter des joueurs.
Bien sûr.
Comment honorer entre guillemets cette place de Ligue des Champions qui maintenant tend les bras à l'OM?
Il n'y a pas le choix. Il faut vendre deux joueurs. Il faut vendre les joueurs qui sont en forme en ce moment. Là, bon, Thauvin, c'est pas un bon exemple parce qu'il est blessé en ce moment, mais c'est ces valeurs commerciales qui peuvent rapporter de l'argent à l'OM. Ils s'en sont sortis.
Oui, mais Hugo, la question que je pose, c'est comment les remplacer? Parce que si on vend des bons joueurs, il faudra en récupérer
des gros salaires. Ça peut se remplacer. Strootman, voilà, exactement. Germain, ils ont viré, j'allais dire entre guillemets, pour Rami. Oui, c'est un petit peu ça pour Adil Rami. Ils sont séparés d'Adil Rami.
Merci Fort Boyard.
Ça leur a fait du bien financièrement. Et ils n'ont pas perdu au change. Ils avaient Douillet, Caleta-Car, Alvaro, voilà.
On va rappeler que Marseille va jouer un gros match, il me semble, à mi-février contre Lille, à Lille. Donc ce sera peut-être le tournant vraiment de la saison pour Marseille, même si à mon avis le trou est quand même fait. Et ça peut aller vite quand même, parce qu'il y a Rennes, on en parlait tout à l'heure, qui va assez aussi rapidement.
Qui va à Brest ce soir.
Donc il reçoit Brest, je crois, non?
Il reçoit Brest.
Alors moi, la question que je me pose, Florian Gazan, c'est que finalement 80 millions d'euros déficit, ça inquiète personne.
On
vend deux joueurs et c'est terminé, quoi.
Non, mais ça inquiète.
Moi, j'ai quand même l'impression que le propriétaire Frank McCourt, il est en train de faire un schéma comme il avait fait au baseball avec les Dodgers.
Exactement.
Il est en train de se dire bon, allez, ça y est, c'est fini les conneries. On arrête, on va plier les Gaules, arrêt buffet. Et le fameux Paul Aldridge dont on nous a parlé au mercato, qui a été engagé par Jacques-Henri Hérault pour vendre des joueurs en Angleterre, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans la vente de clubs aussi. Et moi, je me demande si c'est pas le premier maillon pour une vente de l'OM. Je pense que Franck Macron, il est en train de se dire, bon, allez, on va arrêter buffet. Et je pense que l'OM va très vite être un club à vendre qui sera peut-être une bonne ou une mauvaise nouvelle en fonction de s'il y a un repreneur ou pas, quoi.
On va rappeler que Marseille mène actuellement devant Toulouse 1-0 grâce à un but de Payet. Cindy Colmenares, oui, c'est Florian Gazan a soulevé un problème important. On se dirige peut-être vers ça tout doucement.
Oui, oui, effectivement. Et il a déjà un préalable, il l'avait déjà fait par les passés. Après, les problèmes aussi à l'OM que je vois, c'est que d'un côté, sportivement, on voit bien, il se débrouille bien. Quand Aldridge arrive à l'OM, effectivement, pour vendre des joueurs en Première Ligue, parce que c'est pour ça finalement qu'il est connu, là, ça crée des soucis parce qu'il y a Andrés Villas-Boas, on en a longuement parlé, qui a ses objectifs. Il veut gagner des titres, il veut aller en Ligue des Champions. Et donc là, c'est là où je pense que dans les mois à venir, il peut y avoir des soucis parce que il y aura forcément ces soucis de déficit financier qu'il faut régler, c'est imminent. Et d'un autre côté, Arteta toujours ses ambitions au niveau sportif.
Qui va racheter l'OM, Baptiste Deschamps?
Je ne sais pas si l'OM va être à vendre dans quelques mois. Je pense que personne ne le sait encore aujourd'hui. Mais un garçon comme, enfin un homme d'affaires comme Franck McCourt, il essaye aussi de racheter, de récupérer la gestion du parc Chano. Alors. Voilà, le parc Chano qui joue le Vélodrome, c'est 20 hectares, il essaie peut-être de faire une aréna de 5-6 000 places, donc je ne suis pas sûr que derrière, là, dans les années à venir, il va vendre tout de suite.
Il faut qu'il l'ait.
Mais s'il l'a, c'est quand même un signe comme quoi il voudrait rester quand même un peu plus longtemps.
Mais là, il y a aussi des municipales au mois de mars, comme ça ne vous a pas échappé. Jean-Claude Gaudin, le maire historique, ne sera plus là, donc on ne sait pas qui va être élu maire. Ça va aussi avoir une incidence.
Bien sûr.
Hugo Hamelin, Steve Mandanda en forme internationale.
Exactement, un superbe arrêt de Steve Mandanda qui m'a fait crier un petit peu parce que Toulouse était tout près d'égaliser. Ils appuient quand même depuis Toulouse, depuis la 75e, depuis 5 minutes. Elle est toulousaine pour tenter d'égaliser avec une nouvelle frappe. Je crois que c'était Koné qui place cette frappe au-dessus de la barre transversale, cette fois-ci de Steve Mandanda. Toujours 1-0 pour Marseille. On est entré dans les 9 dernières minutes du temps réglementaire.
Oui, évidemment, on sera avec vous pour vivre la fin de cette rencontre. Marseille, donc déficitaire. Mais Marseille devra pallier ce déficit par la vente de certains joueurs. Marseille qui, en cas de victoire cet après-midi, aura 9 points d'avance sur Lille et Rennes qui recevra Brest tout à l'heure. Nous sommes avec Cindy Colmenares, Baptiste Després du Figaro, Florian Gazan, Raymond Abou. Nous allons parler après de Paris Saint-Germain-Lyon. Est-ce que ça fait toujours rêver cette affiche? Est-ce que Lyon peut tout perdre en une semaine également en coupe et en championnat avec donc Marseille comme adversaire en coupe et Paris Saint-Germain en championnat? Nous allons voir ça tout de suite sur RTL dans quelques instants tout de suite.
Denis Balbir sur règlement sur centreaccord.com. Denis Balbir sur RTL. On refait le match.
Les débats en antenne avec Florian Gazan.
Nous sommes avec Raymond Abou, Florian Gazan, Cindy Colmenares et Baptiste Després du Figaro. Paris Saint-Germain-Lyon, dimanche, est-ce que c'est une affiche, Florian Gazan, qui fait toujours rêver? Alors, je connais la réponse dans le championnat de France de Ligue 1, c'est pas trop votre truc.
C'est pas trop votre truc
au niveau du spectacle. Mais est-ce que ça fait toujours rêver?
Mais si, j'aime bien la Ligue 1, c'est ma Madeleine de Proust, même si la Madeleine est un peu moisie. Non, mais les grosses affiches comme ça, oui. Si on n'a pas envie de regarder un PSG-Lyon, Lyon étant une équipe qui, comme ces dernières années, a plutôt embêté le Paris Saint-Germain, le battant à domicile et l'embêtant vraiment au parc. L'année dernière, ils en ont pris 5, mais pendant une demi-heure, ils les ont gardés vraiment en face. Il y avait eu cette frappe de Ndombele sur la barre. Ils avaient vraiment embêté le Paris Saint-Germain. Donc je pense que oui, c'est un match excitant parce que d'abord, Lyon, ils sont vraiment dos au mur. Là, l'OM est en train de gagner. Ils prennent vraiment le large. Et si Lyon perd au Parc des Princes, ça va devenir très très compliqué en Ligue 1. Donc voilà. Et puis j'ai tendance à croire que cette équipe un petit peu fantasque sur des matchs comme ça, des joueurs comme Aouar, des joueurs comme Dembélé, même des Traoré, ils sont quand même capables de se mettre un petit peu à l'endroit. Le problème, c'est que le résultat, ils se mettent à l'envers. Mais je pense que demain soir, ils peuvent quand même être un minimum au rendez-vous.
Vraiment à bout.
C'est la grande affiche. C'est le premier budget du championnat contre le deuxième budget du championnat. C'est Anthony Lopez, c'est les grands joueurs. Je parle budget. Non, mais c'est bien sûr que c'est une grande affiche. Vous verrez, il y a le Tifo, c'est l'affiche du dimanche soir. C'est génial. Et je pense que les Lyonnais vont vouloir rentrer dedans dans les Parisiens parce qu'ils vont. Il y a une rivalité. D'abord, Neymar ne joue pas, c'est ça?
Neymar économisé.
Neymar, il dit qu'il peut jouer et Tourelle, il dit non, tu vas pas jouer parce que. Ils vont pas jouer à 10%. Ils vont jouer fort, les Lyonnais.
Neymar, il peut pas jouer parce qu'il y a Dortmund PSG dans 10 jours.
Il se réserve pour 10 jours.
Je préfère qu'il joue pas et préfère que ses petits copains. Il y aura Mbappé, comme ça Mbappé pourra jouer tout le match. Il sera pas sorti, il pourra jouer tout le match. C'est une grande affiche. Moi, je serai là et je vais la faire demain avec Eric Silvestro et Giovanni Cassadi. On va se régaler. Baptiste on va faire gagner un voyage aussi demain sur RTL.
D'accord.
Ouais, c'est magnifique ça, un voyage.
Mais là, on est aujourd'hui.
Mais demain, vous allez voir un voyage sur RTL.
Baptiste Després, Le Figaro.
Non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que derrière, ça reste une grande affiche, mais le souci, c'est que tu as quand même 25 points d'écart entre les deux équipes. Florian évoquait le côté fantasque des joueurs. Je trouve qu'on l'avait avec l'époque Genesio. Là, avec Rudy Garcia, j'ai un peu de mal à trouver le côté fantasque. J'ai du mal à voir des beaux matchs de Lyon, voire des bonnes mi-temps de Lyon. Je parle même plus de matchs là sur 90 minutes. Donc j'ai un peu peur que demain, ce soit le but de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes et que derrière, ça mette un peu de mal à s'emballer. Donc j'attends de voir. En tout cas, oui, ça reste une affiche, mais je trouve qu'il y a quand même un peu moins de côté
fantasque. Juste deux secondes. Pour les 25 points, n'oublie jamais, tu le sais, les joueurs de foot, l'ego surdimensionné. Paris, le Parc des Princes, ça brille. Il y a tout le monde, il y a Mbappé, il y a les 25 points dans leur tête, ils seront pas là les 25 points. Alors où t'as un grand Paris Saint-Germain qui fait comme Marseille à 4-0, c'est fini, on n'en parle plus, c'est réglé. Où t'as un Paris Saint-Germain qu'on a déjà vu quelques fois ronronner. Et là les Lyonnais, ils ont un gros coup à faire au Parc des Princes, parce que après je sais pas si on va parler de Lyon après, mais sinon c'est accident industriel cette année.
Alors moi je suis très excitée par rapport à ces matchs. Je sais pas vous, mais clairement l'OL c'est une équipe que même si elle passe par une mauvaise période, un gars comme Awa, c'est des gars qui marchent à l'ego, au fait, au caractère. Donc moi,
je pense au grand match aussi.
Oui, je pense pas qu'ils vont mettre les bus vraiment dans ces matchs. Je pense qu'au contraire, ils vont se donner à fond. Et du côté du PSG, certes, il y a pas Neymar et encore heureux parce qu'il faut les préserver pour la Champions League. Il a passé blessé encore parce que c'est un peu une habitude chez lui. Mais vraiment des joueurs qui vont mettre les feux sur les terrains. Donc ça peut être assez intéressant finalement comme rencontre.
Intéressant, d'accord, mais les chiffres sont là pour Rudy Garcia. Deux victoires en cinq saisons avec Lille contre...
On n'a pas dit qu'il allait gagner.
Hein. Non, mais intéressant. Je vous donne juste un chiffre. Deux victoires sur cinq avec Lille. Zéro avec Marseille en trois confrontations contre Paris. Bon, ça c'est avec l'équipe de Rudy Garcia, avec l'équipe de Lille et Marseille qui n'est pas l'effectif de Lyon. Qu'est-ce qui peut faire basculer le truc?
Les caractères
Peut-être le fait que ce sera quand même un Paris, notamment avec une défense qui n'est quand même pas la sécurité sociale. Vous allez avoir une charnière.
Parce que la défense de Lyon, pour vous, c'est la sécurité
sociale. Non, mais là, vous me demandez du côté de Lyon. Lyon, c'est sûr que Lyon ne doit pas avoir un grand espoir en sa défense. C'est pour ça que je pense que le bus, ils vont essayer plutôt de le mettre le plus haut possible, vu qu'il est caillassé le bus. Mais non, il y aura une charnière parisienne pas terrible. Au niveau des latéraux, vous allez avoir Kurzawa, donc, qui est capable du meilleur comme du pire. Tout souvent du pire.
C'est dans le pire qu'il est le meilleur.
Voilà, vous allez avoir Meunier qui n'est pas non plus un énorme défenseur, même si il est bien contre-attaquant. Donc non, je veux dire par là, je pense qu'il y aura des possibilités pour Lyon. Et puis Paris, encore une fois, ils sont quand même malgré tout un peu la tête dans ce match-là. Et je pense pas qu'ils vont jouer complètement à fond. Ils le perdront pas, mais ils vont pas essayer de leur mettre une danse. Quoi.
Rapidement, en faisant un tour de table, qu'est-ce que vous pensez de l'absence de Neymar? C'est pour vous, c'est justifié, c'est une bonne nouvelle, c'est bien parce qu'on a un grand joueur. Il joue contre Amiens, contre Dijon, mais contre Lyon, il faut surtout pas qu'il joue parce qu'il joue la Coupe d'Europe. Est-ce que ça se voit ailleurs, ça? Est-ce qu'à Madrid, au Real, on ne fait pas jouer on fait pas jouer les grands parce qu'il y a dans 10 jours ou à Barcelone, Messi il est sur le banc parce que le pauvre, il a mal à l'orteil.
Mais Denis, si vous étiez entraîneur du Paris Saint-Germain depuis deux saisons, vous n'avez pas votre meilleur joueur.
Moi, j'aurais déjà gagné la Ligue des Champions
sur des grands matchs.
Est-ce qu'un match en plus
10 jours avant, même s'il a des petits pépins, il pourrait jouer? Si demain c'était une finale de Ligue des Champions, il serait sur le terrain, Neymar. Sauf que là, Tu aurais la raison, parce que derrière, vous pouvez pas prendre de risques. Alors, il va peut-être jouer un petit peu à Dijon, et puis ce sera terminé pour Dortmund. Honnêtement, c'est de la gestion, et on peut pas taxer Tourelle d'avoir peur de Lyon. C'est juste que là, il faut pas prendre de risques avec Neymar.
Non, mais c'est vrai de les souligner. Ce n'est pas une situation habituelle. On met ses meilleurs joueurs, surtout dans des matchs comme ça, en tout cas contre l'OM, contre l'OL.
Mais quand vous avez 25 points d'avance, vous pensez plus à Dortmund.
Mais effectivement, mais il est vrai. Oui, tout à fait. Et il est vrai que, vu la situation un peu spéciale avec Neymar, je trouve tout à fait normal que Tuchel veuille les laisser en dehors du terrain, surtout qu'on sait les nombres des fautes, des cartons qu'il peut y avoir dans ces genres de matchs à forte intensité. Voilà.
Moi, je veux bien répondre à votre question, monsieur Denis Balbière. Vous m'avez dit,
très parlé de.
Il a commencé en disant oui, mais vous savez, Barcelone, Real Madrid, le Bayern. Tous ces grands clubs qui font jouer les joueurs, ils ont déjà gagné la Ligue des Champions, eux, jusqu'à preuve du contraire.
C'est vrai que Paris.
Donc le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que le Paris Saint-Germain
n'avait pas encore.
Non, parce qu'il dit, ils font jouer quand même les joueurs. Le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que veut le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain veut cette Ligue des Champions. Les années d'avant, on l'a pas eu.
À ce moment-là, tu fais plus jouer Neymar que pour la Ligue des Champions.
Attends, il y avait toujours un truc. Il s'est blessé deux fois. Il s'est blessé deux fois.
Il a la bicyclette chez lui, il a un petit bain et puis il va jouer.
Il s'est blessé deux fois au même endroit, à la cheville. Là, il a eu un accident en Coupe du Monde avec son dos. Il a été héliporté. Là, il reçoit un coup de talon dans le dos, au même endroit. Je vais encore parler d'argent. Neymar, c'est 3 millions d'euros par mois. 3 millions d'euros. Si tu le payes 3 millions d'euros par mois.
Tu penses qu'au thune, c'est pas possible.
Non, mais même moi-même,
bah,
à
tu
dire,
payes Cavani non, à peu près.
Même à dire, c'est dingue. Ça veut dire que tu as besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'il le disait, 23 points, 25 points d'avance. Le Paris Paris Saint-Germain sera champion. C'est pas
évidemment.
Voilà, qu'est-ce qu'on veut? On veut que Neymar soit là, si Neymar il joue et que les Lyonnais lui rentrent dedans et qu'il lui... C'est toujours quand on est blessé à un endroit qu'on se reblesse au même endroit.
Non, mais même,
et voilà, s'il n'est pas là pour Dortmund et qu'on se fait éliminer, que le Paris Saint-Germain se fait éliminer contre Dortmund, on va dire ah bah c'est normal, c'est à cause de Neymar.
C'est vrai que jusque-là Neymar a été très utile
et tout le monde tombera sur Florent Gazan.
C'est le meilleur au PSG Neymar.
Non mais justement pour le moment c'est exceptionnel, ça fait deux ans qu'à cette époque-là l'année normalement il est en rééducation ou chez lui à faire la fête.
Là prendre de risques.
Là il est en forme, dans la forme de sa vie, même que je pense que même à Barcelone il a rarement eu un niveau aussi élevé. Qu'est-ce que vous allez prendre comme risque? Il faut prendre le truc à l'envers. Admettons, il joue demain soir. Ok, c'est super pour le diffuseur. Il se blesse. Qu'est-ce qu'on va dire à Tourelle? Qu'est-ce qu'on va dire à tout le monde? On va dire ah là, Neymar, il a encore pété. Voilà. Paris va encore se faire éliminer et c'est fini. Ils ont cette année, je pense, l'équipe, l'effectif pour peut-être aller loin. Eh ben, il faut pas prendre de risque.
Bien sûr. Carrément, bien sûr. Moi, je pense que Neymar, il est bien chez lui, il se repose. Après, il y a encore deux matchs là.
Il y a Dijon et Amiens.
Alors, même je vais dire, même Dijon, à la limite, reste devant la télé. Et à Amiens, joue une mi-temps, refais-toi la série d'une mi-temps,
loin,
ou joue le match, c'est pas loin, ça compte.
Prends ta bagnole.
Voilà, et puis après, tu rentres. Et contre Dortmund, t'exploses tout. C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Il le fait pas sortir, Tourelle. Quand il fait sortir un joueur, Tourelle, fait sortir Mbappé. Parce que je vais reprendre votre exemple, Real Madrid, Barça. Mais Ronaldo, il sort jamais. Messi, il sort jamais. Et ben Neymar, il sort jamais. Quand il est là, il joue.
Quand il joue, ouais.
Voilà. Mais là, c'est Lyon. Bah, c'est dommage pour le diffuseur. Il l'a dit, Flo. C'est dommage pour nous parce qu'on aime bien la Ligue 1. On aimerait bien voir Neymar faire des roulettes et des buts en lucarne contre Lyon. Ouais. On aimerait bien. Mais voilà, si t'es le mec qui lui donne 3 millions d'euros par mois, dis reste chez toi.
Je trouve qu'on tombe facilement sur Tourelle depuis pas mal de semaines. Juste sur la gestion, je trouve que là, c'est intelligent par rapport à Neymar. Mais Florian l'a dit, au niveau de la défense, la Thiago Silva qui joue pas, pareil, il y a zéro prise de risque.
Pas que là, toute la saison, elle a été intelligente.
Oui, exactement, sa gestion est ultra intelligente. Alors là, on reste focus sur Mbappé qui est énervé de sortir la semaine dernière. Mais pour moi, là, Tourelle, c'est très intelligent ce qu'il fait.
On verra contre Dortmund si l'intelligence paye. Nous allons à Marseille, Toulouse, Hugo Hamelin. Nous allons finir le match avec vous.
On va venir regarder avec Denis Balbir le match. C'est pas
la prudence, de Thomas Tourelle. Mais vu le passif du PSG en Ligue des Champions, c'est un petit peu normal qu'il agisse comme ça. Marseille qui mène 1-0. Dimitri Payet qui était à deux doigts du doublé là sur deux actions différentes, un face à face perdu avec Baptiste René, et puis là la réception d'un centre tendu de Valère Germain s'est passé juste à côté du poteau. L'homme en forme vraiment de l'Olympique de Marseille, hein. 8 buts déjà depuis le début de l'exercice pour Dimitri Payet, dont celui qui va permettre à son équipe de remporter les 3 points ce soir. Bon, je vous cache pas que Villas-Boas a un petit peu fermé la boutique en faisant entrer Hiroki Saka. Ils sont donc à 5 défenseurs derrière les Olympiens, et Toulouse qui continue de pousser. Il reste 30 secondes à jouer dans les arrêts de jeu de ce match. À souligner également la défense de l'Olympique de Marseille. Ça va faire le sixième match depuis le début de l'année 2020 que Marseille n'encaisse pas de but. 6 clean sheets d'affilée, c'est tout simplement la meilleure défense d'Europe depuis le début de l'année. La dernière action toulousaine avec cette longue touche directement dans la surface de réparation. Léa Iseka qui ne parvient pas à se saisir de ce ballon. Ils vont avoir une deuxième chance, les joueurs du TFC, avec ce centre complètement manqué qui va terminer dans le virage nord derrière Steve Mandanda. Le dernier dégagement probablement pour le capitaine marseillais qui a encore fait son match, hein. Il n'a pas eu beaucoup de boulot, Steve Mandanda. Voilà, c'est fini, coup de sifflet final, mais il a sorti les arrêts qu'il fallait, et notamment cet arrêt aux alentours de la 75e minute, arrêt réflexe pour sortir un ballon en corner. Victoire donc de l'Olympique de Marseille par la plus petite démarche, mais maîtrise globale des Olympiens qui donc repoussent encore la concurrence au classement de la Ligue 1.
Une question, c'est un peu, est-ce que Payet sera à l'Euro 2020?
Petite remarque pour vous dire que Stéphanie Frappard a fait un grand match, l'arbitre de ce match Marseille-Toulouse, superbe arbitre comme très souvent on l'adore. C'est vraiment le
première fois au Vélodrome, ouais. 51 000 spectateurs, ouais, elle a fait le job.
Une performance à remarquer à chaque match de Stéphanie Frappard. Deuxième chose, Villas-Boas, si vous aimez l'entraîneur de l'OM, il y a un très bon papier dans le magazine SoFoot, le mensuel. Nous parlerons après la pub très rapidement de Lyon. Lyon peut-il tout perdre cette semaine? Le championnat en perdant au Parc et la Coupe de France en recevant l'Olympique de Marseille. À tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL.
4h30.
On refait le match sur RTL. Denis Balbir.
La suite de la journée, je vous rappelle que Marseille a battu Toulouse 1-0. Ce sera dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France avec Christian Olivier, Philippe Sanfourche et Giovanni Castaldi. Lyon peut-il tout perdre en une semaine? Florian Gazan, le championnat en battant, en ayant une défaite au Parc des Princes, et puis en recevant Marseille en Coupe de France.
C'est vraiment la semaine de tous les dangers. C'est peut-être pour ça que Jean-Michel Aulas a repointé le bout de son museau pour mobiliser un petit peu tout le monde, à mettre un peu de pression, parce que là on a vu, Marseille a gagné. Si Lyon perd au Parc demain soir, je pense que ça va être, bon, le titre c'est oublié. La deuxième place, ça, je pense aussi oublié. Après, ça va jouer pour la troisième place. Mais le problème, c'est que quand vous chassez une équipe, c'est jouable. Mais là, ils chassent Lille, ils chassent Rennes, qui sont des équipes qui avancent aussi très fort. Donc ça va être compliqué. Et après, bah, la Coupe de France, ça sera le vrai objectif de l'OM. Mais de l'OL, mais l'OM est très bon en ce moment. Et je pense qu'ils ont dans l'idée d'aller faire du tort à Jean-Michel.
Vraiment à bout.
Je vais essayer de faire court pour le séparer. Tout le monde, c'est un accident industriel. Faut pas se mentir, c'est une déception. Au début de la saison, on nous a fait venir Silvinho, on nous a fait venir Juninho. Vous allez voir l'Olympique Lyonnais, on a fait venir des joueurs, vous allez voir, ça va être formidable. Ensuite, Silvinho, il part. On fait des entretiens d'embauche avec des CV, Laurent Blanc, Rudy Garcia. Mais Rudy Garcia, il a mieux parlé que Laurent Blanc. Donc Laurent Blanc, c'est un chiffon. On n'en a pas besoin. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose. Lyon, ils vont se bagarrer pour être troisième. La deuxième place, c'est terminé. Donc maintenant, ils vont jouer les tours préliminaires de Ligue des Champions. Et comme l'a dit Florian, les autres ne vont pas se laisser faire. Pour moi, Lyon, cette saison, elle est complètement gâchée. Elle est foutue. Elle est finie. J'ai de la peine pour les supporters lyonnais. Accident industriel.
Cindy Colmenares.
Alors, je ne suis pas aussi pessimiste par rapport à l'OL, mais en tout cas demain c'est clairement une épreuve et c'est vrai que face au PSG et face aux clubs qui vont devoir affronter par la suite, ça a l'air compliqué. Après, on n'est pas à l'abri que les joueurs de l'OL se réveillent aussi, qu'ils mettent de l'intensité et qu'ils puissent un peu venir bousculer Paris. Ils sont pas tous les joueurs actuellement demain.
Baptiste Després, Le Figaro, pour conclure.
L'un des problèmes de Lyon, je trouve, c'est qu'en fait je sens pas de révolte, je sens pas de renouveau, je sens pas d'amélioration avec Rudy Garcia. Alors il y a quelques petits matchs qui sont de temps en temps bien réussis. Et encore sur 90 minutes, j'ai beaucoup de mal à voir des belles performances de l'Olympique Lyonnais. Alors, il va y avoir la Ligue des Champions. Demain, ils jouent au Parc. Ils sont à 16 points de Marseille. La seule chose.